وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، دونك بسم الله الرحمن الرحيم. Dans notre matière concernant le fiqh, qui est une des matières principales enseignées ici à l'Institut At-Tawhid. Comme nous l'avons précisé et mentionné dans les cours précédents, notre premier ouvrage intitulé مدخل إلى علم الفقه، l'entrée dans la science du fiqh. Ce premier ouvrage enseigné ici à l'Institut l'a pratiquement terminé. Il nous reste deux biographies, voire trois biographies à étudier, et ensuite on entrera dans l'explication, dans le fiqh de notre ouvrage Zad al-Mustaqna' de notre cheikh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Donc, commencez, une petite recommandation, commencez dès maintenant, pour ceux qui sont francophones, de vous procurer le PDF en français qui a été partagé sur et traduit en français sur l'explication de Zayd al-Mustaqnar de Cheikh al-Fawzan. Vous pouvez le prendre comme support pour le matin et également pour le matin, pardon, et également pour l'explication qui sera une petite explication de base. Et comme avec Cheikh al-Fawzan, c'est l'explication selon le madhhab al-Hanbali, donc ça tombe bien. Ça vous fera une base, un petit support. Ça, c'est une première chose. Préparez votre support. Pour ceux qui sont arabophones, pour ceux qui sont arabophones ou qui savent juste lire et qui comprennent, qui déchiffre, qui... En tout cas, qui savent lire et qui sont débutants. Et... Il n'y a pas de mal. C'est un petit peu onéreux, si on peut le dire comme ça. Il n'y a pas de prix pour les livres, hein, comme le disait, comme le disent les savants. Mais par rapport à la moyenne, Zayd al-Mustaqnar de Cheikh al-Uthaymeen en... Une quinzaine de volumes, c'est en France, je pense, j'ai oublié, en France, près de 200, 250 euros. Wallahu a'lam, hein, j'ai oublié. Je sais que les livres en France, ils sont très chers. Les livres en France sont très chers. Donc vous pouvez vous le procurer. Vous pouvez vous le procurer si vous le désirez. Et ceux qui ont un minimum, ils savent lire, ils déchiffrent, etc. Vous allez staffide en arabe. Vous allez profiter en arabe d'avoir le support directement en arabe et de le faire en arabe. Traduit en français, bien entendu. Alors nous, on fera un mukhtasar, c'est-à-dire un résumé. On ne va pas traduire tout. On fera un résumé de Cheikh Al-Uthaymeen, mais on dira les choses les plus importantes, etc. Naham. Parce que si on traduit tout, ça sera, comme il mentionne les khilafs, les divergences, on ne pourra pas mentionner toutes les divergences, ça sera trop technique pour les débutants. Donc, Wallahu a'lam. Donc, préparez votre support. Non. En tout cas, le fiqh, ça sera bénéfique comme pas possible. Hein. Le fiqh, surtout avec Cheikh Al-Uthaymeen, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite du début à la fin, de faire cet ouvrage du début à la fin. On demande à Allah ta'ala qu'il nous facilite. C'est un long chemin, mais... C'est du bagage, hein. Avec Cheikh Al-Uthaymeen, ça va être du bagage. Alors, il n'y aura pas tout en français. Dans le matn de Cheikh Al-Fawzan, il n'y aura pas tout en français. On a d'ici là le temps de réfléchir. Je crois que ça s'arrête au chapitre du jeûne chez Cheikh Al-Fawzan. C'est ce qu'il me semble, Allahu A'lam. On avisera par la suite. On avisera par la suite de voir. On a le temps pour ça. Biznillahu ta'ala. Donc, dans le cours précédent, on s'était arrêté. On s'était arrêté à la biographie de l'imam Malik. Vous allez voir que l'imam Malik. C'est pas n'importe qui. Alors juste à titre indicatif, je sais qu'il y a encore des questions qu'on m'a posées. Je n'ai vraiment pas eu le temps. Tout est noté, hein. J'ai fait en sorte que tout soit dans un noté, hein, les questions. Et dès que j'ai le temps, je les consulte et j'envoie les réponses. Ne vous inquiétez pas. طيب، la biographie de l'imam Malik. Alors, tout d'abord, je voudrais vous apporter une faïda et une recommandation que vous savez déjà, parce que même dans le comportement, on a parlé de ça. Pour vous dire, hein, pour vous dire, regardez la relation du comportement avec toutes les matières. En fait, une faïda ici, c'est que le comportement, la matière du comportement ou le comportement, il est associé, il est relié à toute la religion. Donc, toutes les matières religieuses qu'on va étudier, le comportement, il y est lié. Il est lié à toutes les matières. Donc le comportement également, il est lié au fiqh. Puisque si vous vous souvenez, on a vu que le fiqh, lors de la divergence, il y avait un comportement approprié. Approprié. Lors de la divergence, on a vu que il y avait un comportement approprié à avoir. Et bien entendu, c'est plus vaste que ça. Alors la faïda, deuxième faïda concernant le fiqh, nous aimerions, c'est très important, c'est une recommandation pour les élèves. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ou vous, si vous savez ça, mais en tout cas, c'est une recommandation ici. Pour ceux qui le découvrent, assimilez-le, c'est important. Le fiqh, donc la jurisprudence, dans la législation islamique, religion de l'islam, c'est quelque chose de très vaste. Attention, c'est quelque chose de très vaste. Ça signifie que toi, en tant que gens de la masse, en tant qu'étudiant, quel que soit ton niveau, tu dois être conscient que le fiqh, c'est quelque chose de très vaste. Donc, il faut prendre en compte, il faut être conscient qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Parce que c'est très, très, très vaste, soyez vigilants, ne pensez pas que vous maîtrisez une mas'ala, une question religieuse concernant le fiqh. Parce que, je vous le dis d'expérience, même des gens qui enseignent, des fois, même des gens qui enseignent, c'est arrivé qu'ils n'ont pas connaissance d'une question concernant le fiqh. J'ai déjà été confronté à ça avec des gens qui sont des enseignants, et même nous, on ne connaît sûrement pas tout le fiqh, hein. Confrontés à des gens, mais pourquoi on les cite ces gens? Parce qu'eux, ils s'avancent. Ils s'avancent. Et dans le fiqh, il ne faut pas s'avancer si tu maîtrises pas tout le... si tu connais de A à Z. Même nous, jusqu'à aujourd'hui, il nous arrive qu'on nous pose des questions. Nous, on connaît une position. On connaît une position, on a une position. Et quand on va vérifier, eh ben on se rend compte qu'il y a plusieurs paroles, il y a divergences, etc. Donc soyez vigilants, vous risquez d'être étonné plus d'une fois. Quand vous allez mettre votre nez dans le fiqh, vous risquez d'être étonné plus d'une fois. Et encore plus quand vous ne mettez pas votre nez dedans. Soyez vigilants. Vérifiez avant. C'est bien d'avoir une position. Ça, c'est bien. Mais attention. Attention, tu risques d'être surpris, bousculé. Quand quelqu'un vient et te dit, Achi, il n'y a pas que ta position qui existe. Hein. Toi, tu peux pas venir et dire, comment ça, comment ça? Il va te ramener une parole de l'imam Malik, de l'imam ceci, du shir cela, avec le dalil, avec l'explication, du tafsir, etc. Et toi, tu ne connaissais pas et tu as réduit cette question à une position absolue, qui est la tienne. Alors, bien entendu, il y a des positions qui sont prépondérantes. Ça veut dire que souvent, Mouhim, on ne va pas rentrer trop dans le détail, ce serait un cours à faire. Franchement, ce serait un cours à faire. Parce que, y a beaucoup de paramètres. Et il y a beaucoup de chemins qui dérivent de cette question religieuse dont on est en train de vous parler. Par exemple, il y aura le côté, il y aura le côté où on a plusieurs positions qui sont réelles, différentes compréhensions par rapport aux savants. Donc il faudra chercher la position prépondérante, l'avis prépondérant. Mais attention, vous pouvez avoir également plusieurs positions et dans ces positions, on va appeler ça, on appelle ça des positions bizarres. Alors, c'est la traduction en français, mais dans la législation, on dirait plutôt qui sont hors sujet, on va dire. Hein? Qui sont à côté de la plaque, si vous voulez. Chèvre. يعني غريب غريب هذه هذا الموقف. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je vais vous donner un exemple. Sans porter de jugement, attention, nous on est là pour قال الله قال الرسول. Allah a dit, son messager a dit. Les compagnons ont dit, les savants ont dit. On n'est pas là pour juger, mais c'est le premier exemple qui me vient, par exemple. On va donner d'autres exemples également. Vous avez la barbe, l'exemple de la barbe. Vous avez l'exemple de comment on appelle ça, le dégradé, les cheveux. Il y a plusieurs positions. Mais là, on vous donne l'exemple de positions qui sont venus, qui sont hors sujet. Façon de parler hors sujet, c'est-à-dire les ulama, ils ont dit ça, c'est une position bizarre. Tu viens et tu dis on a le droit de tailler la barbe, on a le droit de la raser. Il y en a qui sont venus comme ça. Hein. Parmi les anciens, des savants, ils sont venus, mais le reste des savants, ils ont dit, sur cette masala, il est à côté. Également, quelqu'un, il peut vous faire un niqash, un débat, et vous dire, il y a des dalils, tu verras, il y a des savants qui disent que le dégradé, tu peux. Alors, si tu vas fouiner, tu vas trouver. Mais également, ça, c'est à côté. Quand tu vas regarder l'épreuve du Kitab ou As-Sunna, c'est pas du tout prépondérant, voire ça contredit la Sunna. Alors, pour vous donner un peu plus de faïda, il y a des innovateurs, ben c'est ça leur truc. C'est comme ça qu'ils embobinent les gens. Ils vont chercher dans les paroles bizarres, les paroles hors sujet, les erreurs de savants, et ils font une compilation. T'as le droit de serrer la main aux femmes, t'as le droit de tailler la barbe, t'as le droit de raser la barbe, t'as le droit de ceci, t'as le droit de cela, tout ce qui est. Donc ça, c'est un autre côté du fiqh. Il faut que vous le sachiez. Quand tu étudies le fiqh, il faut le savoir. Faut pas que tu pars avec des ambiguïtés. Le premier qui va venir, il va dire, Achri, t'es pas au courant que. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple qui nous vient? Je vais vous donner un exemple incroyable. Alors là, c'est un exemple qui m'est arrivé à moi-même. J'ai connu à l'époque, il y a quelques années, un frère, un étudiant qui est parti, qui est resté une dizaine d'années en Arabie. Il a un très bon niveau, hein. Il est très fort. Quand il est rentré en France, il est devenu directement imam. Puis à la suite, il était connu dans le 92, etc. Moi, je le connais bien. Malheureusement, par la suite, il a eu une mauvaise réputation. Mais un jour, avant qu'il ait cette mauvaise réputation, on se connaissait, on faisait des traductions, des vérifications de traduction ensemble, etc. Al-Muhim. Un jour, ce frère, il me dit, c'est là que j'ai compris après, hein. C'est vraiment dommage, hein. Parce que question Aqida, il était bon, il donnait des bons cours de Aqida, etc. Mais qaddar Allah ma sha'a fa'al. Pour vous dire que l'Arabie, attention, hein. Je connais beaucoup d'étudiants, je les ai connus avant de partir, ils sont revenus les pauvres, très bon niveau. Il y en a, ils ont eu des magistères, des. Ils sont revenus à côté, les pauvres. Donc il faut faire attention, hein. C'est pas parce que tu vas partir en Arabie que tu vas revenir chez les gens de la Sunna. Tu peux revenir égaré, hein, comme ça a été le cas de certains. Donc ce frère. Cet imam, un jour, alors que moi j'ai l'habitude de m'habiller d'une certaine façon, il me dit, Akhi, pourquoi tu mets la hammama comme ça, le kamis? C'est pas obligatoire, c'est pas la sunna, c'est pas. Il y a des savants qui disent que tu peux te mettre en pantalon et tu peux. Alors si vous préférez cet imam, et pourtant qui se dit Jean de la Sunna, il est connu comme tel, etc. Quand il est rentré au quartier à l'époque, Wallahul Musta'an, ce quartier, une certaine ville, dans le 92, je crois que c'est Gennevilliers, c'est pas je crois d'ailleurs, c'est Gennevilliers. Beaucoup de gens que je connaissais, ils étaient dans chez les gens de la Sunna. Il y avait un grand nombre de gens de la Sunna là-bas. C'était connu des frères très mustafides. Et quand ce frère est arrivé, il était très 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 calé, hein, et diplômé, hein. La preuve, c'était l'imam de Gennevilliers. La grande mosquée de Gennevilliers, c'était lui l'imam. Et il a commencé justement dans le fiqh. Entre fiqh et aqida, des fois, à mettre des ambiguïtés. Alors, ça y est, les frères avant, ils étaient. Mais vraiment, ils suivaient le manhaj, les ulama. Ça a commencé à être. C'est bon, la hijra, c'est pas obligatoire. C'est bon, tu peux t'habiller comme ça. C'est bon, tu peux tailler la barbe. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Paraît-il qu'il a. Il a complètement. Propagé son. Pourquoi? Alors, pourquoi? Pourquoi? C'est important dans le fiqh que je vous explique ça. C'est important pour vous, hein. Pourquoi? Parce que lui, il est venu avec des ambiguïtés, même toi, tu ne peux pas répondre. Je vous dis que moi, une fois, il m'a regardé comme ça et il m'a dit, Achi, pourquoi tu t'habilles comme ça? Je me souviens plus ce que je lui avais répondu à l'époque. Mais ensuite, j'ai fait une recherche, un bahth. Parce que c'est pas comme ça, tu pars avec des ambiguïtés. Il faut les réponses aux questions. Tu dois chercher, tu dois demander, tu dois. Et effectivement, il y a des savants qui vont te dire, il y a des divergences, il y a des savants qui vont te dire, le pantalon par exemple, si c'est pas une spécificité des mécréants, si aujourd'hui c'est devenu commun, les musulmans, tout le monde, les kofars, tout le monde porte le pantalon, alors tu peux te mettre en pantalon. Mais d'un autre côté, je ne vous mets pas des ambiguïtés, attention. Mais d'un autre côté, moi je ne porte pas de pantalon. Mais d'un autre côté, je porte pas de pantalon, ça veut pas dire que Salouel, hein. Taïb. Mais d'un autre côté, alors pourquoi Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il nous dit le pantalon c'est Al-Bantalon, il dit, hein, Al-Bantalon en arabe, il dit le pantalon c'est imitation des associateurs. Vous avez des savants qui nous disent ça, d'autres qui nous disent ça. Il y a bien une parole prépondérante. Il ne faut pas s'arrêter à l'obligatoire. Faut pas s'arrêter à l'obligatoire. La sunna, elle est où? Et la sunna, elle est où? Alors, comme c'est pas obligatoire, on met la sunna de côté, ce que j'avais dit à un frère une fois. Non. Cheikh Al-Uthaymin, par exemple, il dit la imama, sorte de foulard que les frères mettent sur la tête. La imama, si tu la mets avec niya d'imiter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ressembler au prophète, etc., Cheikh Al-Uthaymin, il dit t'es récompensé pour ça. Il n'y a personne qui va me dire pourquoi tu le mets, ne le mets pas. Tu connais pas ma niya. Tu vas pas m'enlever les hassanettes. Le qamis, c'est le meilleur vêtement que préférait le prophète, alayhi salatu wa sallam. Si ce n'est pas un des vêtements qui remplit les conditions légiférées. Alors ça, c'est des exemples que je vous ai donnés. Vous pouvez tomber sur des cas comme ça. Et toi, tu vas dire, mais non, ça n'existe pas, t'es un menteur. Mais en réalité, ça existe. Il y a des savants qui ont dit ça, il y a des... Mais seulement, il y a certaines personnes qui vont chercher des erreurs de savants ou des ijtihad qui sont faibles. Et le vrai étudiant, lui, il cherche la position prépondérante. Parce que, si vous voulez, alors... Il est 29 à 30, on va commencer la biographie, vous inquiétez pas, hein, de l'imam Malik. Parce que si vous voulez entrer dans les divergences et suivre ce chemin, quelqu'un qui veut suivre ce chemin, je vais vous dire, tout est permis, hein. Tu vas manger au McDonald's, hein. Tu vas mettre des shorts au-dessus des cuisses. Si tu cherches certaines, ce sont des positions qui existent. Hein. Attention. Hein. Si quelqu'un il mange la viande des chrétiens et il dit moi je mange au McDonald's, moi je mange là, t'as rien à me dire, tu vas lui dire quoi? Si quelqu'un il porte un short au-dessus des cuisses, tu vas lui dire quoi? Moi j'ai vérifié, il y a des savants qui disent que je peux, t'as rien à me dire. Je suis convaincu. Donc. Je ne suis pas là pour vous mettre des ambiguïtés ou quoi, mais c'est tout le contraire si vous réfléchissez bien. Je suis là pour vous préparer à faire attention dans le fiqh à certaines ambiguïtés et certaines. Le fiqh, c'est très vaste. Ne croyez pas que certaines positions n'existent pas quand certaines personnes viennent et vous disent cherchez, vérifiez d'abord avant de dire ça n'existe pas, nanana. Par contre, ce que vous pouvez lui dire, c'est fais attention, mon frère, ma sœur. À force de prendre les positions qui sont considérées comme faibles, parce que la divergence, elle se divise en divergence forte et divergence faible. Il y a des divergences, des positions, elles sont faibles. Elles sont faibles. Une fois, j'ai fait un test à un enseignant. Quelqu'un qui est enseignant, prêcheur. Je lui ai dit, je vais te faire un test, Inch'Allah, dans le fiqh. Je lui ai posé quelques questions. Parmi ces questions, il y avait une question sur Salat al-Jama'a. Il a répondu à côté. Il ne savait pas qu'il y avait une divergence sur la prière en commun à la mosquée. Que l'imam Malik, il voit que. La prière à la mosquée, c'est pas obligatoire. Alors attention, je vous ai déjà dit, je vous mets pas des choubouhettes. Mais il y a des frères, par exemple, ils vont dire celui-là qui prie pas à la mosquée, c'est un munafiq, c'est un. Comme le disait Wallahul Musta'an. Vous avez Yahya al-Hajouri, à une époque, lorsqu'on était à l'institut, moi personnellement, j'avais la position que si. Allah La position que même si je reste 10 ans, je suis en voyage. C'est ma position. C'est la position de Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah, de Sheikh Al-Albani. C'est la niyya. Tant que tu te sens que tu es en voyage, eh ben, tu as le statut du voyageur. Alors, il y a des. On n'a pas le temps d'expliquer, mais il y a des conditions, des choses. Hein, des choses. Hein. Eh bien, Yahya al-Hajouri disait, celui qui a pris cette position, Allahu a'lam, hein, comme disaient les étudiants, il dit c'est un pervers, c'est un fasiq. Et moi, à l'époque, je disais, il pense ce qu'il veut, mais il n'est pas plus savant que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. On ne traite pas les gens de pervers parce qu'ils ont une position. On n'a pas dit que Zina, il était halal. Hein. Là, on a dit que on est venu pour étudier, on se considère comme voyageur. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est pour vous donner des exemples. Donc, j'espère que c'est compris. C'est très, très, très important. Dans beaucoup de questions religieuses, il y a des divergences que vous n'imaginez même pas. Hein. Si ce n'est pas, Wallahu a'lam, hein, c'est juste une petite statistique comme ça, ne la prenez pas au premier degré à 100%, mais peut-être, Wallahu a'lam, sur une question sur deux, il y a divergence. Divergence, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs positions. Il y a plusieurs positions. T'as même? Donc attention à ça. Ne vous emballez pas, ne vous précipitez pas dans le fer. Attention, ça ne veut pas dire tenez vos positions. Si vous êtes. Parce que c'est important de ne pas être mutaraddid en arabe, ça veut dire indécis. Non, tu as une position, tu ne la lâches pas. Tu es convaincu par ça, il n'y a pas quelqu'un qui vient et en 5 minutes, il te fait changer. Sauf si c'est fort. Si c'est fort. Donc ce que je viens de vous expliquer, ça ne veut pas dire vous ne tenez pas vos positions. Tenez vos positions. Tenez vos positions. Pourquoi? Faites attention, la plupart des musulmans aujourd'hui sont ignorants de leur religion. Oh, il était en voyage, il a mangé pendant le ramadan, c'est un mounafir qui fait pas le. Il fait pas le ramadan. Et toi, tu es en voyage, tu es obligé de. T'as peur, tu te dis, ils vont me prendre pour un mounafiq. Tout ça parce que les gens sont ignorants de leur religion. Wallahul musta'an. C'est une permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La permission, les savants disent, faut la prendre. Allah, il t'a donné une permission, faut prendre cette permission. La majorité des gens de la communauté aujourd'hui sont ignorants. Donc attendez-vous à ça. Taïb. J'espère que vous avez bien saisi, c'est très important. C'est très important dans le fiqh, qu'on a déjà vu dans le comportement. Même si quelqu'un il vient avec une autre position, merci, d'accord, mais c'est votre position, mais moi j'en ai une autre. Et je suis convaincu par ma position. T'as même? Et forcément, il y a une position qui est prépondérante. Alors, ça, c'est un autre sujet. On fera un cours sur ça. Est-ce qu'il y a une seule véritable bonne réponse, bonne position quand il y a khilaf? Il y a des savants, il y a khilaf dans ça aussi. Il y a des savants qui disent quand il y a khilaf, il y en a un autre qui se trompe. Hein. Il y en a un autre qui se trompe. Il y a d'autres savants qui disent ils ont tous raison, parce qu'ils ont fait le ijtihad et tout, ils ont tous raison. Toi, si t'en as suivi un, et ben, alhamdoulillah. Tu seras dans le bon, hein. Mais attention, attention. Je termine par ça. Attention. Il y a la divergence, la vraie divergence, et il y a la divergence que je vous ai dit, celle que vont chercher les innovateurs. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les femmes et les... A'udhu billah, hein, les femmes et les hommes, ils étaient tous mélangés ensemble. C'est le dalil que le ikhtilat s'est permis. Qardawi, Ismaïl Mounir, Boussena, toute la bande des frères musulmans. Les femmes parlaient aux hommes, etc. Ça, c'est ta compréhension. Ça, c'est ta compréhension. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu, toi? Tamam. Donc, surtout les frères musulmans, ils ont beaucoup de choses comme ça. Attention. Et une dernière parole, excusez-moi. Faites attention. Les awam, les gens de la masse, ils prennent beaucoup des frères musulmans. Donc forcément, les gens de la masse, ils sont remplis d'ambiguïté comme ça. Remplis. Dans votre famille, vous allez vous mélanger. Ouais, c'est pas obligatoire ça, mais tu sais qu'il va t'envoyer une ambiguïté venue d'ailleurs. Toi, tu vas être là. Pourtant, t'es gens de la sunna, t'écoutes les ulama, tu prends des cours. Et eux, ils viennent. Pourquoi? Parce que eux, ils écoutent les innovateurs. Les innovateurs, ils sont pleins d'ambiguïté. Mais en Darora, mon frère, ma soeur, tu peux faire un crédit, hein? Parce que la Darora, comment tu vas faire? T'as bien besoin d'une maison, hein? Tu vas pas louer toute ta vie? Des ambiguïtés. Toi, si tu connais, eh ben, alhamdoulillah. Moi, j'écoute qui? Tu lui dis mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon cousin, ma... J'écoute qui? Allahu Ta'ala ou toi? Et tes amis innovateurs? Allahu Ta'ala yaqul fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladhina amanu dharu ma baqiya min ar-riba. Un délaissé, abandonné. Allahu Ta'ala, le riba. Dans un autre verset, ceux qui font le... Les intérêts, riba, ils ont déclaré la guerre. Harbin min Allah. Ils ont déclaré la guerre à Allah. Alors ramène toutes les paroles que tu veux. La parole d'Allah, elle est au-dessus de toute parole. Vous voyez? Alors pour vous dire que cette matière, le fiqh, elle est très importante parce que tu peux t'égarer. Par le biais du fiqh, la cause du fiqh, tu peux t'égarer. On ne vous le dira pas tous les jours, ça. Hein. Faites très attention. Par le biais du fiqh, tu peux t'égarer. Eh oui, il y a le fiqh des gens de la sunna, il y a le fiqh des gens de la bid'a. Il y a le usulul fiqh des gens de la sunna, il y a le usulul fiqh des gens de la bid'a. Faut faire attention. Ne va pas étudier le fiqh avec les gens de la bid'a, de l'innovation. Tu vas te retrouver à danser je ne sais pas où, habillé je ne sais comment. Wallahul musta'an. Donc notre imam, j'insiste, hein, ça c'est important. On sait que le shaitan, il se sert de... Il rentre par plusieurs portes. Hein. Et bien le fiqh, ça peut être une porte. Taïb, la biographie de notre imam Malik. Son nom, l'imam Malik, Abu Abdillah. Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himri al-Himyari al-Madini. Donc il est de Médine. Hein. Imam Darul Hijra, c'est l'imam de la demeure de l'émigration. Il est né l'imam Malik, il est né à Médine en 93 de l'Hégire, Al-Asah, ce qui est le plus authentique. Hein. Ce qui est le plus authentique, ça veut dire qu'il doit y avoir beaucoup d'autres positions sur la naissance. En tout cas, ici, on nous dit 93. Il est mort en 179. L'imam Malik est mort en 179. À l'âge de 86 ans, nous dit-on. c'est-à-dire Nasha'tuhu wa talibuhu l'ilm. Donc l'imam Malik, il a évolué, il a grandi à Médine. Auprès d'une famille noble connue pour les sciences religieuses. Connue pour les sciences. Allah musta'an. Connue pour les sciences religieuses. Donc, talaba. Cheikh Al-Imam Malik, il a étudié les sciences religieuses auprès des savants de Médine. Alors que déjà, il était tout jeune. Hein? À peu près une dizaine d'années. Hein? Lorsqu'il a été éclairci, ça a été une affaire claire pour sa mère, que son engouement vraiment, son attachement, son aspiration aux sciences religieuses, à la recherche des sciences, sa mère, Al-Imam Malik, elle lui a mis l'habit de la science, avec une imama sur la tête, le turban. Puis elle dit, lorsqu'il était petit, hein, va auprès de Rabi'a, on va le voir après, c'était son grand cheikh, le premier, Rabi'a, le grand savant, apprend l'éducation. Le comportement avant la science. C'est ainsi que l'imam Malik, à 21 ans, à l'âge de 21 ans, il était déjà apte à faire des fatwas, à enseigner, à 21 ans. L'imam Malik. Regardez ce que nous dit, ce que nous a dit l'imam Malik à ce propos. Je n'ai pas répondu, c'est-à-dire je n'ai jamais répondu, je n'ai pas commencé à répondre au fatawa, je n'ai pas commencé à faire de fatwa, il nous dit le cheikh, jusqu'à ce que j'ai demandé, c'est-à-dire tant que je n'avais pas demandé à plus savant que moi, c'est-à-dire aller demander aux savants, que vois-tu sur ce sujet? Ça veut dire, l'imam Malik, il n'a pas fait une fatwa sans avoir demandé à plus savant que lui avant. C'est ça que ça veut dire. Il a même dit, l'imam Malik, j'ai pas fait de fatwa jusqu'à ce que 70 témoins me disent que j'étais prêt, que j'étais apte à cela. Il n'a jamais voyagé de Médine jusqu'à une autre pays, un autre pays, une autre contrée. Alors ça, les savants disent parce qu'il n'en a pas eu besoin. À Médine, il y avait des savants, il y avait tout ce qu'il faut. Il n'a pas eu besoin de voyager pour aller chercher la science, l'imam Malik. Tamam. Alors. Parmi ces chouïoukhs les plus connus, donc pour vous, ça va vous sembler une zone inconnue. On va juste les mentionner comme ça, les noms. Mais ce n'est pas une obligation de les connaître. Hein. On les mentionne parce que là, on a certains noms. On nous dit qu'il a eu à peu près plus de 90 chouïoukhs. L'imam Malik. Parmi les plus connus. Abdullah ibn Yazid ibn Hermez al-Assam. C'est le premier savant chez qui il est parti étudier à Médine. Nafi', le deuxième Nafi', Mawla ibn Omar. Ça, c'est un cheikh avec qui il a étudié depuis qu'il était tout petit, on nous dit. Et la plupart des versions dans le hadith qu'il a rapporté, c'est de lui. Il se nomme Nafi' Mawla ibn Omar. Le troisième, Ibn Shuhab al-Zuhri. Le quatrième, Sulayman ibn Mihran al-Amash. Le cinquième, qui est très connu, Ayoub al-Sakhtiyani. Le sixième, Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, ma'rouf bi Rabi'a Ra'i. Donc, de ce dernier, le grand savant qui s'appelle Rabi'a, rahimahullah, l'imam Malik a pris de lui le fiqh. Et regardez ce qu'a dit l'imam Malik concernant son grand cheikh, Rabi'a. Il a dit, l'imam Malik a dit, la douceur du fiqh est parti depuis que Rabi'a est mort. La douceur du fiqh est partie depuis que Rabi'a est mort. Donc il était assez minutieux. L'imam Malik, on nous dit qu'il était minutieux. Concernant les gens de qui il prenait la science, ou plutôt de qui il prenait, pas la science, mais de qui il prenait le hadith, les versions, lorsqu'on lui rapportait un hadith. Il était minutieux, il enquêtait. C'était pas comme ça. Également parmi ses élèves les plus connus, alors on nous dit que l'imam Malik, on l'a déjà dit, hein, que l'imam Malik, il a été très tôt considéré comme savant du hadith, un hein, gens du hadith, et apte à faire des fatwas très tôt en âge. Hein. Il a donc réuni entre la science du fiqh et la science du hadith. Il faut le savoir. Hein. L'imam Malik, il a réuni, ça veut dire qu'il maîtrisait les deux sciences du fiqh et du hadith. Ce qui ne signifie pas qu'il ne maîtrisait pas les autres sciences. Lorsqu'il a commencé à être avancé dans l'âge, il a commencé à enseigner, à transmettre longtemps. Son endroit, comme vous le savez, c'était Médine. Hein? Médine. Et les musulmans de partout venaient auprès, étudier auprès de l'imam Malik. Tamam. On a également famine shuyukhihi wa minhum akbar minhu sinnan. Alors on nous dit, parmi ses cheyoukhs, il y en avait bah, qui étaient plus âgés que lui, c'est normal. Hein. On avait ce qu'on a cité déjà précédemment, Ibn Shuhab al-Zuhri wa Rabi'a, Ibn Abdurrahman, wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari, wa Yahya ibn Abi Kathir, wa al-Awza'i, wa Ibn Jurayj. Parmi ses camarades, parmi les camarades hein, de l'imam Malik, vous avez Sofiane al-Thawri. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Sofiane al-Thawri wa Layth ibn Sa'id. Ibn Sa'd. Tamam. Alors, ensuite, les ouvrages de l'imam Malik. Les ouvrages de l'imam Malik. On nous dit, le premier ouvrage de l'imam Malik, du moins le plus connu, c'est celui qui s'intitule, qui se nomme Al-Muwatta. Al-Muwatta. Alors, pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre très, très, très connu. C'est le premier recueil de hadith avant le Sahih Bukhari qui n'existait pas et le Sahih Muslim. Avant qu'ils arrivent, la référence c'était Al-Muwatta de l'imam Malik, il faut le savoir. Afwan, hein, sont des. Comme du. De l'acide qui remonte. Hein. Tamam. Donc, je pense qu'il y a une traduction du Muwatta de l'imam Malik. Pour ceux qui ne connaissaient pas, eh ben c'est bien de l'avoir et de le lire. Et quand vous avez un problème dans l'explication d'un hadith ou quoi, vous nous demandez, il n'y a pas de souci. Vous nous demandez, il n'y a pas de souci. Tamam. Al-Muwatta, c'est. De l'imam Malik fait partie de ses plus connus. Ah, il y a une traduction chez Al-Bayyina. Subhanallah. Al-Bayyina, Al-Bayyina. Donc, comme on a dit, nous, à l'Institut, comme on a dit concernant le Bayyina, il y a des. Les traductions en général, elles sont. En darora, c'est-à-dire en cas de nécessité, il n'y a pas d'autre traduction. On peut les prendre, mais vous êtes dans un institut. Je vous dis ça parce que vous êtes à l'institut et on peut vérifier ensemble. Sinon, al-bayyina, wallah al-musta'an, ils ne sont pas, ils le disent eux-mêmes, hein, ils ne sont pas gens de la sunna. Ça s'est vraiment dégradé leur cas dernièrement. Très très grave. Très très grave. Ils le disent eux-mêmes, ils ne sont pas des gens de la sunna. Wallahu al-musta'an. Donc du moins ils disent on n'est pas salafi, etc. Des choses très graves les concernant. Wallahu al-musta'an. Que j'ai vu moi-même. Tayyib. C'est Nader Abou Anes récemment qui a visité et qui a fait une vidéo. Avec eux, avec comment elle s'appelle Al-Bayyina, la Maktaba Al-Bayyina à Gennevilliers. Nader Abou Anes. Nader Abou Anes, on sait très bien que c'est un frère musulman endurci, etc. etc. Il y a plein de choses. El-Muhim. Donc en Darora, à l'Institut, on peut prendre leur traduction. Mais pas tout, et voilà, on vérifie ensemble. Tamam. Alors, disais-je, Al-Muwatta de l'imam Malik, c'est son ouvrage le plus connu. Alors, on nous dit ici que l'imam Malik, il a mis 40 ans à écrire, à réunir Al-Muwatta. Il a mis 40 ans. Akhadha fi ta'lifihi, il a pris pour sa constitution, pour son l'écriture de ce livre, wa tahdhibihi nahwa 40 sana. Wallahu a'lam, c'est ce qui est écrit ici. Wa taba'a 'iddat taba'at, donc il a été imprimé, c'est-à-dire édité par plusieurs maisons d'édition. Et il y a eu beaucoup d'éloges sur cet ouvrage de l'imam Malik. Naham. On nous dit ici, c'est un livre immense. Les savants ont fait les éloges. Et ils ont porté un intérêt immense et très grand à cet ouvrage, Al-Muwatta. Alors, il y a des explications de. Peut-être dans le futur, hein, pourquoi pas. Dans le futur. Nous, pour l'instant, on est dans le. On est dans le. La. Le fiqh de l'imam Ahmed. Hein, mais pourquoi pas dans le futur. Hein, étudier cet ouvrage. On nous dit qu'il y a plusieurs explications de savants du Muwatta de l'imam Malik. On nous dit, il y en a un qui s'appelle Tamhid, il y en a un autre qui s'appelle Istizkar, wa kilahuma li ibn Abdelbar. Et ces deux ouvrages sont d'un grand savant connu qui s'appelle Ibn Abdelbar. Wa qala al-Shafi'i ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من الموطأ مالك. Donc ici on a une parole de l'imam Shafi'i qui a dit, l'imam Shafi'i donc qui a dit, écoutez bien ce qu'a dit l'imam Shafi'i sur le livre, l'ouvrage Al-Muwatta de l'imam Malik. Il a dit, il n'y a pas un livre sur la terre, dans les sciences, plus juste que le Muwatta de l'imam Malik. Mais ici on nous dit, cette parole de l'imam Shafi'i, elle a été dite avant qu'il y ait les deux recueils de Bukhari wa Muslim. Ce qui signifie, on nous dit que Al-Muwatta, c'est parmi les premiers recueils de hadith. Risala fil qadar wa raddu ala al-qadariya katabaha ila al-Tirmidhi ibn Wahhab wa isnadaha anhu sahih kama qala al-Dhahabi. On a un deuxième ouvrage de l'imam Malik, qui s'intitule « Épître sur la destinée ou prédestinée et réplique au Qadariya » qui a été écrit, plutôt il l'a écrit à un de ses élèves, Ibn Wahhab. Troisième ouvrage de l'imam Malik, « Épître au juge » en un volume, qui a été écrit pour certains juges. Quatrième ouvrage de l'imam Malik, épître de fatawa, donc d'avis religieux. Cinquième ouvrage de l'imam Malik, parmi les plus connus, hein. Risala fi ijma' ahli al-Madina. Ça c'est important, hein. On va le voir par la suite. C'est un épître sur l'unanimité des gens de Médine, qu'il a envoyé, il l'a écrit, et il l'a envoyé, l'imam Malik, à qui? À Layth ibn Sa'd. Un des grands, pareil, de ses élèves, de ses compagnons à l'époque, hein, qui sont connus, hein, comme Shuyukh également. Donc pourquoi ce cinquième épître, j'ai dit que c'était important? Parce que, retenez bien, on va le voir à la suite, l'imam Malik, dans son argumentation, comme Dalil, vous avez vu, on a déjà expliqué que les savants, chacun il a sa spécificité dans les sources dans lesquelles il prend. Alors, il y a des sources sur lesquelles tous les savants, ils ont la même, il y a l'unanimité, le Qur'an, tous les savants, ils ont cette source, la Sunna, tous les savants, ils ont cette source, l'Ijma', l'unanimité, tous les savants, ils ont cette source, et après, selon les savants, il y en a plus, il y en a moins. Et là, il y a une source que seul l'imam Malik, c'est une référence pour lui. Tamam? Tous les autres imams, cette source-là, il n'y a que l'imam Malik. Alors c'est quoi? Cette source que vous pouvez rajouter aux sources dont vous prenez connaissance, hein, on ne connaissait pas, ça s'appelle Ijma' Ahlul Medina. Ijma' Ahlul Medina, c'est quoi? C'est le consensus, l'unanimité des gens de Médine. Si par exemple, sur une question religieuse, il y avait l'unanimité des gens de Médine, pour l'imam Malik, c'est un argument, c'est une preuve. Mais pour les autres imams, non. Ils sont pas un. Les gens de Médine, c'est pas un argument. Que les gens de Médine. Wallahu a'lam. Donc, en temps voulu, on fera un détail sur ça. On fera un cours, on fera un détail. Tamam. On va terminer sur la biographie de l'imam Malik. Aujourd'hui, on va terminer sur. On nous mentionne certaines paroles connues. De l'imam Malik. Des paroles qui sont connues chez l'imam Malik. L'imam Malik a dit, on prend et on délaisse la parole de toute personne, sauf le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik également a dit, sache que l'immense corruption, c'est que la personne parle sur tout ce qu'elle entend. L'imam Malik a dit également, je n'ai pas appris la science, plutôt pardon, je n'ai appris la science que pour moi. Je n'ai pas appris pour que les gens aient besoin de moi. Pourtant, ce fut le cas. Les gens avaient besoin de moi. La science, ce n'est pas le grand nombre, a dit l'imam Malik, le grand nombre de textes rapportés, mémorisés. Mais la science, c'est une lumière qu'Allah place dans les cœurs. Tamam? Donc, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas la biographie de l'imam Malik qui reste quelques. On le verra dans le prochain cours, il reste pas beaucoup, hein. On a pratiquement terminé. Donc, Inch'Allah ta'ala, pour essayer de rester. Respecter les horaires. Pour essayer de respecter les horaires, Inch'Allah ta'ala. On va s'arrêter ici. Je regarde rapidement si je ne peux pas répondre aux questions maintenant. Barakallahu fikoum. Si je ne peux pas répondre aux questions maintenant, je répondrai. MashaAllah, barakallahu fikoum. Assalamu alaikum. Oui, cependant, me dit que toute la viande de France sont mangeables car c'est un bien chrétien. MashaAllah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, papa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Kenzo. Subhanallah, j'ai eu un débat avec un frère sur ça hier. Subhanallah. Vous voyez, mais. Astaghfirullah, hein. On va pas faire. Mais nos exhortations et nos cours, ils sont d'ordre du jour. Hein. Ils sont d'ordre du jour. Hein. Il y a notre frère qui nous dit, Subhanallah, j'ai eu un débat avec un frère sur ça hier, sûrement sur la viande des chrétiens, etc. Tamam. Par contre, la France, Allahu alam, hein, comme on me dit ici, c'est pas des, c'est vrai, c'est pas des gens, Allahu alam, c'est pas des gens du livre, ils se disent athées, hein, en France, faites attention. Hein. Dans le livre Zad al-Mustaqna. Je vais lire vos, pour les sœurs, je vais lire après. Pouvez-vous nous faire des précisions sur ces frères qui nous disent ça d'après des fatwas de l'Uthaymin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai plus peur pour vous. Imam qui égare que le faux Messie. Masha'Allah Ziyad. Ahsant Ziyad. Très bien. Il y a un commentaire de Mouetta qui est sorti en français en 5 volumes en 2021 chez les éditions An-Nour. Masha'Allah. Un commentaire de 5 volumes. C'est intéressant. Faudra voir. Inch'Allah ta'ala. C'est un ouvrage par la suite, hein, lorsqu'on aura fini notre programme dans le fiqh. On pourrait, hein. On pourrait parce que l'imam Malik, c'est. Subhanallah. Allahu Akbar. Taïb, eh ben, si vous voulez des précisions sur ce sujet, je ne sais pas, peut-être dans le prochain cours de fiqh, je vous ferai un petit exposé sur la question de manger la viande ou pas, etc. Manger au McDo, pas manger au McDo, c'est bien, c'est pas bien. Personnellement, n'allez pas manger au McDo. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Naham. Alors, les. Nos étudiantes, nos étudiantes. Tamam. Alors, toujours cette. J'oublie à chaque fois hein, de. La France, Naam. J'ai compris. La France est athée. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Ustad. Wa alaikum salam. Rahmatullahi wa barakatuh. Pour vous répéter, min fadlikum, je n'ai pas entendu qui était parmi les élèves de l'imam Malik. Les élèves de l'imam Malik. Parmi ses élèves les plus connus de l'imam Malik, on a Alors, Ashhar Talamidhihi, l'imam Malik, Watahil Royal, Ifta, Hadith, Omar, Jama'a, Fi Hadith, Amin Shoukhi, Akbar, Min Sinan. تمام من أشهر أصحابه من تلاميذه عبد الرحمن قاسم العتقي من أشهر تلاميذه مالك الموطأ عنه قليلا ابن وهب. Alors, parmi ses élèves les plus connus, je crois même que je ne les ai pas cités, subhanallah. Vous avez ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم العتقي. Il est parmi les élèves les plus connus de l'imam Malik. Le deuxième, Ibn Wahab. Le deuxième, Ibn Wahab.